Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Donc vous allez nous parler des législatives en Arménie.
Et oui, là aussi les législatives en mouvement, puisque la coalition du Premier ministre Nikol Pachinian arrive largement en tête des élections législatives, 70,4%, et le parti républicain, il y a encore 6 mois, relégué sous les 5%. On pourrait dire que la révolution de velours continue dans les urnes. On va parler de ça avec vous, Taline Termination, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue, vous êtes co-directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques Aline Alco, auteur récemment de ce roman Les Galaxies, Marc Arian. Alors, pour Nikol Pachinian, lui, il confirme donc sa popularité en passant du statut d'ancien député d'opposition, héros de la révolution, à potentiel chef de gouvernement. On pourrait dire que son deuxième passé et son deuxième pari est gagné, puisqu'il faut le rappeler, passer de la rue aux urnes, c'était vraiment ça l'enjeu en fait.
Oui, c'était l'enjeu, mais je crois que le public lui était largement acquis, si bien que cette victoire massive n'est pas en réalité une très grande surprise. C'est la suite logique de la dernière séquence que nous avions examinée ensemble, Xavier, à savoir le 1er novembre 2018, excusez-moi, cette autodissolution tactique, intervenue d'ailleurs au terme d'une crise politique qui avait duré quelques jours et qui est donc a conduit fort logiquement à la démission de Pachinian, démission tactique et autodissolution, et donc tenue de ces législatives anticipées qui ont eu lieu donc hier. Et donc depuis lors, Pachinian était un premier ministre intérimaire en attente d'un raz de marée électorale pour sa coalition Yelk, qu'on peut traduire heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, par En Marche, entre autres.
Oui, enfin,
c'est l'une des traductions possibles.
Lui-même a fait sa révolution en marchant.
Voilà, exactement. Il l'a fait véritablement en marchant, pas au sens figuré, enfin au sens figuré, mais aussi au sens propre. Et donc, effectivement, il attendait ce raz de marée électorale, et ce raz de marée électorale s'est en effet produit. Il faut quand même rappeler que dans la précédente législature, Nikol Pachinian appartenait à un groupe qui ne disposait que de 6 sièges. Or, les élections d'hier lui ont octroyé plus de 70% des voix, ce qui effectivement va complètement modifier la situation de la répartition des sièges à l'Assemblée.
Pourcent un siège à pourvoir cette fois, alors on va reparler de la cuisine politique et arithmétique. Deuxième enseignement en tout cas de ces législatives, c'est ce fameux parti républicain, je le disais, qui était quand même largement
hégémonique
dans la vie politique. Aujourd'hui, 4,7%, c'est même pas le seuil qu'il faut pour entrer au Parlement, c'est
étonnant.
Non,
effectivement, il a été totalement laminé. Plusieurs commentateurs laissaient espérer que malgré tout, dans les provinces, enfin ils espèrent en tout cas, que dans les provinces, ils disposaient d'un maillage assez solide. Mais il semblerait, d'après les derniers chiffres que nous ayons, que le Parti républicain soit passé sous la barre des 5%, ce qui fait qu'il ne rentrerait même pas au Parlement. Il y a donc un basculement absolument spectaculaire. Bon, ce qui veut simplement dire que aussi les Arméniens ont passe d'une majorité à l'autre, vote pour la personne qui est au pouvoir, ce qui, selon moi d'ailleurs, est un peu une marque aussi d'un certain esprit qui reste post-soviétique et d'une certaine mentalité qui malgré tout, malgré la révolution de velours, reste quand même présente dans les esprits.
Et à ce titre, vous avez vu ce qu'a dit Nikol Pachinian, je le cite, je crois que le Parti républicain a obtenu exactement le même nombre de voix qu'il aurait obtenu au cours de ces 20 dernières années s'il n'avait pas fraudé. Là-dessus, on peut le dire, c'est une attaque claire contre l'ancien régime.
C'est une attaque claire contre l'ancien régime. Il faut dire que donc hier soir, ou plutôt cette nuit à 1h du matin, Nikol Pachinian a convoqué une conférence de presse au cours de laquelle il s'est justifié de cette baisse du taux de participation, parce que ça, c'est l'un des éléments les plus intéressants à commenter. Le taux de participation était à 60% l'an dernier, en 2017. Il est tombé à 48%. Donc c'est évidemment le seul élément qui brouille un peu ce tableau victorieux pour Nikol Pachinian. Il s'en justifie de diverses manières, en disant que cette fois-ci, la ressource administrative, c'est-à-dire clairement la pratique de busing, c'est-à-dire de transporter les électeurs par bus et aussi bien sûr de leur octroyer d'une manière ou d'une autre des cadeaux.
Oui, des achats de vote, sans le dire.
Des achats de vote, des cadeaux en tout genre. Bon, tout ça ne se serait pas pratiquer cette fois-ci, je mets tout de même un petit peu au conditionnel. Donc il s'en justifie de cette manière. Et puis il parle des électeurs absents ou morts. Enfin bref, bon, il a diverses explications. Mais surtout, son commentaire à lui, c'est que les Arméniens, donc, avec ce vote à 70%, ont donné un mandat clair pour la lutte contre la corruption. C'est le grand slogan sur lequel il a insisté hier soir.
Et en tout cas, avec ce score là, plus de 70%, faut pas s'interroger sur la régularité de ces élections. On sait qu'elles étaient très très surveillées, hein, pour un pays où il y a un peu 2 millions d'électeurs, oui. 500 observateurs internationaux, 17 000
Elles l'ont toujours été. Ouais. Ça, c'est quelque chose de tout à fait régulier, sans que ces surveillances aient en fait changé quoi que ce soit. Donc là, effectivement, ça s'est produit. Tout le monde a bien observé que ces élections se sont produites comme d'habitude en ce qui concerne la surveillance, etc. Effectivement, on pouvait d'ailleurs suivre en direct sur Internet tout ce qui se passait à peu près dans tous les bureaux de vote en direct. On est impressionné par la modernité de l'appareillage des machines de reconnaissance digitale, enfin des choses dont nous n'avons même pas la pratique, nous, en France. Donc tout ça, ça donne une impression de sérieux. Donc voilà. Donc.
Et donc maintenant, avec 70,25% des voix, l'opposition reléguée à presque rien, et un parti qui s'appelle Arménie Prospère à 8,37, qui était un peu l'allié le plus solide, hein, de ce parti républicain à l'époque. Qu'est-ce que va pouvoir faire Nicole Pachignan, tout en ouvrant le jeu démocratique, sans être un parti hégémonique, en concédant une certaine place à l'opposition? Ça risque d'être un peu compliqué, là.
Compliqué, j'en sais rien, parce que quand on dispose d'une majorité confortable cela, voilà, alors maintenant nous avons l'exemple français, vous n'avez plus qu'à gouverner et à faire vos preuves. Maintenant, on a vu aussi que ça peut mettre le pouvoir en situation fragile. La question donc du deuxième parti, effectivement, Arménie Prospère, c'est le parti de ce fameux oligarque qu'on appelle de façon familière Dodi Gago. Alors lui, il était déjà en deuxième position, c'était déjà le parti pivot dans la précédente législature. Et je crois que M. Pachignan, en fait, avait dans l'idée plutôt de faire monter un troisième parti de Edmond Maroukian, de Arménie Lumineuse, qui ferait, donc d'après les chiffres dont nous disposons ce matin, 6,03%. Et donc il avait, paraît-il, le plan plutôt de faire monter ce parti-là, qui est représenté par un personnage qui est un avocat, militant des droits de l'homme, relativement proche, d'après ce que j'ai compris, de la fondation Soros. Il a passé du temps aux États-Unis. Il est pour l'ouverture de l'Arménie à l'Occident, l'Europe, les États-Unis, l'UE, etc. Probablement, il aurait été plus à l'aise d'avoir cette Arménie Lumineuse en deux, dans la mesure où ça lui donnait, disons, une espèce de marge de manœuvre. Ouais. Ça lui permet aussi de jouer peut-être sur plusieurs tableaux. Yeah. Donc là, l'Arménie Lumineuse arrive seulement en troisième position, sachant que aussi dans ces enjeux-là, il y a la présidence et la vice-présidence de l'Assemblée nationale qui est confiée au deuxième parti d'opposition.
Ouais, et il montrerait qu'il est capable de sortir d'une alliance tactique là qu'il a faite avec deux partis importants d'Arménie, hein, la Fédération révolutionnaire arménienne et l'alliance Tsaroukian, ça c'était ces derniers mois. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et devoir faire? Il a beaucoup parlé de ces élections comme la première étape pour ouvrir la voie à la réforme et à la révolution économique. Pourquoi est-ce qu'il fallait attendre ces élections avant d'engager les réformes?
Tout simplement pour disposer de tous les leviers du pouvoir. Donc effectivement, hier, il a aussi annoncé, en plus de la lutte contre la corruption, révolution économique, et puis aussi encore une fois, de nouvelles listes électorales. Donc pourquoi est-ce qu'il fallait? Parce qu'il fallait avoir les moyens de gouverner, avoir la main sur l'économie du pays, mais malheureusement cette économie est très dépendante. Donc ici, il va se retrouver face à la réalité cette fois-ci, une économie qui ne s'est jamais remise en réalité des conséquences de l'effondrement de l'URSS
et aussi
du tremblement de terre dont justement il y a quelques jours c'était la commémoration du 30e anniversaire, si je puis dire. Et donc il va ici avoir affaire à de sérieux enjeux, sachant que l'Arménie est dans une situation de grande dépendance énergétique et notamment dépendance vis-à-vis de la Russie. Donc ici, les choses se compliquent sérieusement pour Monsieur Pachignan. Je signale quand même que si ces élections se sont tenues de façon apparemment tout à fait normale, il y a quand même des éléments dramatiques dans cette affaire, enfin dramatiques dans de dramaturgie, si l'on peut dire, puisqu'il y a deux jours, quand même, l'ancien président Robert Khocharyan a été de nouveau incarcéré au pénitencier central de Yerevan. Voilà, donc ça donne un petit peu l'ambiance. Khocharyan qui est accusé par Pachignan d'avoir entravé l'ordre constitutionnel lors de la répression de l'insurrection de 2008, à laquelle participait, excusez-moi, Pachignan.
Et c'est la cour d'appel qui l'a remise en prison, et c'est pas le seul ancien des anciens régimes à être poursuivi actuellement. On aura à en reparler de ces questions d'anticorruption ou chasse aux sorcières. Merci beaucoup en tout cas pour vos explications aujourd'hui, Taline Termination.
Merci à vous, Xavier.
Directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques, Aline Alco. Merci.
Au revoir.
Au revoir.